Laudetur Jesus Christus.
L'appel du pape pour un retour à la paix dans le Caucase, toujours pas entendu. Les affrontements se poursuivent dans le Nagorno-Karabakh depuis dimanche. Des dizaines de personnes ont perdu la vie dans les combats qui opposent l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce mardi, le président français sera le premier chef d'État de haut rang à s'entretenir avec la principale opposante biélorusse exilée à Vilnius. En Lituanie, Emmanuel Macron a expliqué hier à son allié pourquoi la collaboration avec Moscou était nécessaire. En Espagne, la colère des indépendantistes catalans pourrait être ravivée par la condamnation hier du président de leur région. Quim Torra est inéligible pour un an et demi et de facto donc sur le départ. Enfin, dans notre dossier, nous nous interrogerons sur les conséquences économiques de la guerre en Afghanistan alors que les négociations de paix directes entre les autorités de Kaboul et les talibans piétinent au Qatar.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonjour à tous. Les combats s'intensifient dans le Nagorno-Karabakh. Ils se sont poursuivis cette nuit. Ils ont fait des dizaines de victimes depuis dimanche, depuis le début d'une nouvelle flambée de violence dans cette région du Caucase où s'opposent l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Une réunion d'urgence à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur ce dossier doit se tenir ce mardi, Hélène Détombe.
Oui Marie, cette réunion se tiendra en fin de journée à la demande de plusieurs pays européens. Ces conflits les plus meurtriers depuis 2016 inquiètent de nombreux capitales, la Russie, les États-Unis, la France, les trois médiateurs du conflit au sein du groupe de Minsk ont exhorté à la fin immédiate des hostilités à des négociations. Et alors que Bakou et Erevan s'accusent mutuellement d'être à l'origine de cette nouvelle escalade de violence, le porte-parole du Kremlin estimait hier soir que la priorité était de mettre un terme aux affrontements et non pas de déterminer qui avait raison et qui avait tort. L'escalade est très préoccupante car elle peut avoir des conséquences graves pour la stabilité de la région, a pour sa part déclaré ce lundi le porte-parole de la diplomatie européenne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui appelé l'Arménie à cesser ce qu'il a qualifié d'occupation du Nagorno-Karabakh, soulignant qu'Ankara continuerait à se tenir aux côtés du petit frère et ami qu'est l'Azerbaïdjan. Autant de voix unies ou discordantes qui n'ont pour l'heure pas permis d'accalmie dans le Nagorno-Karabakh où les autorités locales ont annoncé hier soir 26 décès supplémentaires dans leur rang. Il y aurait, Marie, au total près de 100 morts, dont des civils arméniens et azerbaïdjanais.
Merci Hélène Détombe. Et puis dimanche, dès le premier jour de cette flambée de violence, le pape avait prié pour la paix. Il espère que les deux parties prenantes au conflit puissent poser des gestes de fraternité afin de faire taire les armes et d'amorcer un dialogue. Si nous voulons construire la paix durablement sur le continent européen, il nous faut travailler avec la Russie. Déclaration du président français en visite en Lituanie pour 2 jours. Le chef de l'État a insisté hier sur sa doctrine d'un dialogue sans complaisance et sans naïveté avec Moscou. À l'occasion de sa tournée, Emmanuel Macron doit rencontrer aujourd'hui aussi la chef de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya. À Moscou, Jean Didier Revoin.
Pour cette première visite d'un président de la République en Lituanie depuis 2001, Emmanuel Macron s'est livré à un exercice d'explication. Le président de la République a justifié sa politique à l'égard de la Russie, puissant voisin des Pays-Baltes où se sont réfugiés plusieurs figures de proue de l'opposition biélorusse. Emmanuel Macron est persuadé de la nécessité de travailler avec la Russie afin de pouvoir construire une paix durable sur le continent européen. Il est à ses yeux nécessaire de développer un travail stratégique avec Moscou compte tenu de l'histoire et de la géographie que partagent les pays du continent européen avec la Russie. Le tout dans un dialogue sans complaisance ni naïveté, estime Emmanuel Macron, en informant ses partenaires en toute transparence. Durant cette visite de 2 jours dans les Pays-Baltes, le président de la République rencontrera aujourd'hui Svetlana Tikhanovskaya. La figure de proue de l'opposition biélorusse, réfugiée en Lituanie, a exprimé son souhait de voir la France jouer un rôle de médiation avec Minsk. Il sera ainsi le premier chef d'État ou de gouvernement à rencontrer l'opposante. Jean Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
L'État français qui devrait encaisser plusieurs milliards d'euros à l'issue d'enchères qui commencent aujourd'hui. Des enchères pour l'attribution des premières fréquences en 5G. Les opérateurs de téléphonie auront 11 blocs de fréquences à acquérir. Ils espèrent commencer à commercialiser ce service dès la fin de l'année dans les grandes villes. La 5G, ce sont des transferts de données 25 fois plus rapides que la 4G, mais la défiance est grande. Une partie de l'opinion invoquant des risques pour la santé et pour l'environnement. À la une de l'actualité en Europe, la colère des Catalans 3 ans après la tentative de sécession de la région espagnole. Celle-ci, la colère risque d'être ravivée par le tribunal suprême espagnol qui a sanctionné hier le président indépendantiste de leur région. Quim Torra a été condamné à 1 an et demi d'inéligibilité pour désobéissance. Une décision de justice qui entraîne de facto sa destitution. À Barcelone, Luis Marsans.
Élu il y a 2 ans et demi, Quim Torra n'est plus le président de la Catalogne depuis que la justice a confirmé sa condamnation à 18 mois d'inéligibilité. L'homme de Carles Puigdemont à Barcelone avait refusé de retirer du palais présidentiel des banderoles de soutien aux prisonniers indépendantistes alors que l'Espagne était en pleine période électorale. Face au juge, pendant son procès, Quim Torra avait reconnu cette désobéissance. Entêtement stérile pour certains, affaire de principe pour d'autres, cette destitution relance le conflit entre Madrid et Barcelone. Les leaders séparatistes y voient une atteinte à la liberté d'expression. Quim Torra, lui, a dénoncé une attaque contre le peuple catalan, mais il a finalement respecté la décision de la justice puisqu'il a quitté hier soir le palais présidentiel sous les applaudissements d'une foule compacte venue lui manifester son soutien. Quelques affrontements ont d'ailleurs opposé de jeunes radicaux aux forces de l'ordre. En attendant les élections qui devraient avoir lieu en février prochain, c'est Pere Aragonès, séparatiste modéré, qui devient le président par intérim. Barcelone, Luis Marsans pour Radio Vatican.
À Madrid, près d'1 million de personnes ont vu leurs déplacements drastiquement réduits ces dernières semaines à cause d'une hausse des contaminations à la Covid-19, une mesure insuffisante pour le gouvernement. Le Premier ministre Pedro Sanchez a menacé de reprendre la main sur les autorités régionales. 750 nouveaux cas en une journée, les chiffres sont sans appel et nous devons prendre des décisions difficiles de l'autre côté de l'Atlantique. Le Premier ministre du Québec a placé Montréal et toute la région au plus haut niveau d'alerte pendant 28 jours. Les bars, restaurants, cinémas, musées ou encore bibliothèques resteront fermées. Aux États-Unis, alors que l'Organisation mondiale de la santé espère que les pays les plus démunis pourront avoir accès à 120 millions de tests Covid-19 rapides et peu onéreux dans les 6 prochains mois, eh bien, aux États-Unis, le président américain a annoncé cette nuit la distribution de 150 millions de tests pour détecter le virus en 15 minutes. Une annonce qui tombe après les révélations du New York Times sur ses déclarations de revenus et à quelques heures seulement de son premier débat télévisé face à Joe Biden, son rival démocrate dans la course à la Maison-Blanche à 35 jours. De la présidentielle. Et puis toujours aux États-Unis, une nouvelle vague de chaleur s'est abattue sur la Californie, attisée par des vents violents. Des incendies dévastent en ce moment les célèbres vignobles de la Napa Valley. Le chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État Mike Pompeo, est attendu en Italie demain après son passage en Grèce. Hier, Mike Pompeo est venu favoriser une désescalade des tensions en mer Méditerranée orientale. Il a encouragé le dialogue entamé par le gouvernement grec avec les autorités turques. À Athènes, Alexia Kefalas.
C'est une première, un chef de la diplomatie américaine en visite en Grèce, dans 2 villes, à Thessalonique puis en Crète, avant de s'envoler vers l'Italie sans passer par la Turquie, comme le veut la tradition des officiels en voyage dans la région. Le symbole est donc fort, et c'est justement ce que brandit Mike Pompeo, qui entame sa 2e et dernière journée de visite en Grèce. Ce matin, il se rend en compagnie du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis sur la base navale de l'OTAN, dans la baie de Souda, en Crète, afin d'annoncer le stationnement permanent d'un porte-hélicoptère américain et assurer son soutien, le soutien militaire des États-Unis à la Grèce, un soutien justement sans doute intéressé selon la presse grecque au moment où Athènes mène une opération de renouvellement de son artillerie. Les États-Unis voudraient bien pouvoir placer leur frégate et pour cela, Mike Pompeo n'a pas hésité à transmettre des messages pacifiques en appelant la Grèce et la Turquie à régler leurs différends en accord avec le droit international. Une référence aux tensions autour des hydrocarbures qui opposent Athènes et Ankara ces dernières semaines. Le chef de la diplomatie américaine en a profité aussi pour signer de nombreux accords de collaboration avec la Grèce dans nombre de domaines, mais pas encore sur la 5G qui a pourtant été évoquée. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
Et puis autre visite d'un haut représentant américain, celle du chef du Pentagone au Maghreb cette semaine pour réaffirmer l'engagement des États-Unis dans la coopération anti-djihadiste, renforcer la coopération avec l'Algérie, où il sera le premier ministre américain de la Défense à se rendre depuis près de 15 ans. Alger et Tunis réclament à nouveau une solution politique en Libye, loin des ingérences étrangères. Les deux pays prônent un dialogue entre Libyens. Le chef de la diplomatie algérienne l'a réaffirmé hier lors de son 3e déplacement en Tunisie depuis 2019. Alger qui craint l'instabilité grandissante à sa frontière. confronté depuis 2015 à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 1100 morts et contraint 1 million de personnes à la fuite, le Burkina Faso organise le 22 novembre prochain une élection présidentielle couplée à des législatives. Hier, 3 candidats outsiders furent les premiers à déposer leur dossier de candidature. Et puis enfin, au Pakistan, le chef de l'opposition, Shahbaz Sharif, a été arrêté hier par la justice anticorruption. Son parti veut organiser le mois prochain des manifestations visant à chasser le Premier ministre Imran Khan du pouvoir. Direction à présent l'Afghanistan, un pays prêt à tourner une page après plus de 19 années de conflit. Des négociations de paix historiques ont en effet débuté le 12 septembre dernier à Doha, au Qatar, entre les représentants politiques de Kaboul et les talibans. Et cela après la signature d'un accord entre les États-Unis et les talibans en février dernier qui prévoyait la tenue de ce dialogue inter-afghan. Mais déjà, les discussions patinent à Doha, les deux parties ne s'étant toujours pas mis d'accord sur un ordre du jour. Et pendant ce temps, la guerre continue de faire rage dans le pays. La semaine dernière encore, 65 talibans ont été tués au cours d'une bataille avec les forces de sécurité afghanes. Et ce chaos n'est pas sans conséquence sur l'économie, sur fond de pandémie de coronavirus. Le pays est l'un des plus pauvres au monde, avec un important secteur de culture illicite du pavot permettant de produire plus de 80% de l'opium mondial. Adam Batchko est chercheur au CERIS Sciences Po et au CNRS. Il nous analyse la situation économique actuelle en Afghanistan.
L'Afghanistan est dans une situation économique particulièrement critique. Le retrait de la plupart des forces occidentales et avec le retrait de toutes les entreprises, ONG, organisations internationales qui accompagnaient l'intervention, s'est traduit par une crise économique sans précédent en Afghanistan. L'économie qui s'était construite depuis 2001 s'est beaucoup construite autour de l'intervention internationale. Et donc, outre le fait que des dizaines de milliers d'Afghans se sont retrouvés sans emploi, c'est tous les investissements qui accompagnaient cette intervention qui ont disparu, alors même que celle-ci n'a pas produit d'économie autonome. On est dans un pays où 80% de la population vit d'une agriculture de subsistance, avec une agriculture qui est absolument pas compétitive avec les pays autour, et qui se retrouve vraiment dans une situation catastrophique avec le coronavirus, puisque le pays est touché de plein fouet, avec une grande difficulté à traiter la maladie, puisqu'il n'y a pas de système de santé véritablement fonctionnel dans le pays, il y a très peu de capacité de prise en charge de la population, et les infrastructures sont dans un état profondément détruites. Les routes qui ont été construites pendant la période de l'intervention ont été construites avec tellement de corruption du côté des internationaux qu'aujourd'hui une grande partie de ces investissements ont disparu et que beaucoup de routes en fait sont boueuses alors qu'elles avaient été construites il y a moins de 10 ans. C'est vraiment une situation économique absolument déplorable.
Alors l'économie afghane repose grandement sur la culture du pavot. À qui profite ce commerce de l'opium dans le pays?
L'opium joue un rôle énorme dans le PIB. Il y a 3 niveaux auxquels des gens vont ponctionner de l'argent. Il y a d'abord les cultivateurs qui ne font que subsister. Ils ne gagnent très peu d'argent de la culture du pavot. Et historiquement, c'était autour d'eux que les talibans, l'insurrection qui se bat contre le régime, récoltaient de l'argent. Le véritable niveau de profit commence pour ceux qui sont capables de déplacer la marchandise. Les gens qui récupèrent la gomme de pavot produite par les cultivateurs et qui la déplacent vers la frontière, qu'on trouve des gens qui commencent à s'enrichir, qui historiquement étaient du côté du régime jusqu'en 2014. Avec les progrès militaires talibans, les talibans ont pris le contrôle de ces circuits-là. Et enfin, le gros du profit, c'est les laboratoires de transformation qui aussi étaient du côté du régime jusqu'en 2014, que les talibans ont pris en charge ces dernières années et qui participent de leur financement et de leur supériorité vis-à-vis des forces du régime aujourd'hui.
Et pour quelles raisons cette culture du pavot est-elle si bien portante ?
Elle repart surtout parce que le contrôle sur les récoltes et tout ce qui se joue autour de la lutte contre les labos a beaucoup diminué ces dernières années. Donc on est surtout face à une opportunité économique pour les revendeurs de faire. On est dans un moment en particulier où les talibans qui contrôlent les campagnes où se passe le gros de l'économie de pavot ont intérêt à récolter autant de fonds que possible pour conduire leur guerre. Et donc évidemment dans un contexte comme ça, il n'est pas étonnant que personne ne se battent véritablement pour réduire la production. Il y a un deuxième problème qui est essentiel, c'est que l'héroïne fait des ravages en Afghanistan. Ce qui est d'autant plus problématique que c'est une honte sociale pour les gens qui la font, et donc en général, le problème est géré de manière privée, ce qui évidemment ne marche pas. Et il y a très peu d'institutions de lutte contre l'addiction en Afghanistan.
Un autre volet maintenant, l'accord de paix signé entre les talibans et le gouvernement. Peut-on en attendre des retombées économiques ?
L'accord de paix, fondamentalement, n'a pas un véritable volet économique. Il est d'abord un accord qui vise à essayer de gérer la situation. Les États-Unis aujourd'hui ont dit qu'ils se retiraient et que le régime qui n'a pas la capacité de tenir face aux talibans tout seul est obligé de négocier en position de faiblesse. Le volet économique là-dedans est fondamentalement quelque chose d'extrêmement marginal. Avant même qu'il puisse y avoir des retombées économiques de l'accord de paix, c'est le fait qu'il y ait un accord de paix qui est une véritable question. Les talibans sont en position de force sur le terrain et ils sont en position de force dans les négociations et leur intérêt est un jour de prendre le pouvoir à Kaboul. Ils ont le temps, les États-Unis se retirant, ayant promis de se retirer dans les 12 prochains mois. Les talibans ont toutes les raisons de faire traîner cet accord pour obtenir ce qu'ils veulent. Et donc, si vous voulez, le volet économique là-dedans est extrêmement marginal. La population afghane n'a pas vraiment son mot à dire dans ces négociations.
Interrogé par Adélaïde Patrignani, Adam Batchko, chercheur au CERI, était l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient tout à l'heure à 13h. Excellente journée.